change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too.
Okay, are we ready? I'm Naomi Klein, author of The Shock Doctrine. You're listening to CKUT. Keep listening.
There is this thing. Do you realize
what is?
There is this thing. Do you realize
consciousness is affected?
There is this thing.
On.
There is this thing going on.
What
do you realize?
Our consciousness is affected.
There is this thing going on.
What is called?
The news brought to you live.
Welcome to Labor Radio. I'm your host, Stefan Doucette, always with
Mustafa Henaway here on the August edition of Labor Radio on CQT 90.3 FM.
You can hear us every third Thursday of the month between 5 and 6 here on CKUT in Montreal, also CKUT.ca online. And you can find us on Facebook as well, where you can find Mixcloud links to past episodes and so on. We're also on the Labor Radio Podcast Network, where you can find other labor-related podcasts from around the world. On today's show, we have an interview with Valérie Martin. She's a Unifor member with the SUPFER out in Maniwaki-Tremblant. She's the union rep for the Maniwaki-Tremblant local of the SUPFER. They're the forest firefighters here in Quebec. Puis juste à noter que si vous écoutez cet épisode spécifiquement pour l'entrevue avec la consoeur Valérie Martin, on va avoir une introduction en anglais, mais plus tard dans l'épisode, l'entrevue est toute en français. So, That said, welcome back to Montreal, Mustafa. You were away for a bit.
Was away in Italy, and also, I was away, and also hopefully we'll be able to talk about some of those ventures and the labor struggles in Italy too at a future episode, so.
Absolutely. Before we get to our interview with Valeri, we had a few pieces of news that we wanted to cover. Do you want to talk about Olimel first, Mustafa?
So Olimel Valley Junction in Beauce is closing its one of its larger plants in Quebec, and it's going to be closing the end of this year in December 22nd. And it sparked a series of controversies, also because it's one of the plants where CSN is actually the main union, and some of that production is being shifted to other parts of Quebec. But also the two large issues with this is that first was that Olimel actually is one of the major employers in the Beauce region, where lots of, village, lots of people are dependent, not just at working at Olimel directly, which employs, between 500 and 1,000 people, but also in terms of other, secondary industries, whether it be pig raising, whether it be transportation, whether it be services to Olimel. So it's going to have a massive impact in terms of unemployment in the region. And Olimel not only is a near monopoly when it comes to meat processing in Quebec, but it's one that took $150 million in subsidies to modernize its plants from the Quebec government in 2021, and essentially has taken public money and then slashed jobs. So kind of shows you the impetus of profit by all means, and even the support by the CAC government, despite the fact that, Legault touts himself as a sort of a political leader of the region, of the working class in the regions. But again, what CAC is doing is just simply to subsidize these massive monopolies and then watch them cut jobs and destroy whole communities. And beyond that, there've been, Olimel's relying on migrant labor as meat processing and industrial butchery. There's always been sort of an acute migrant worker force. So there's over 123 migrant workers, mostly coming from Mauritius, who've been laid off. And the problem is, as part of their ability to stay, requires them to actually to have work. Now that they've lost their jobs, their immigration statuses are in limbo. And members of the Immigrant Workers Center have actually been out there supporting these workers to ensure that they get new LMIAs and actually aren't displaced again and being able to stay in Beauce. So there is actually organizing in the community to say that this plant should stay. There shouldn't be corporate handouts for companies that are just going to close. So there is actually organizing that's taking place around some of the laid off workers at Olimel and the laid off migrant workers at Olimel. So as more develops, I think it's going to be really interesting what happens out there, because there's also another company out in Beauce that's also calling for that's temporarily laying off its workers. So there's going to be a gutting of jobs, and sort of what is the CAC heartland. So, but talk about more about what activists and union organizers should be doing out there, in a longer term perspective when thinking about combating, the CAC government.
Absolutely. Another update that we have few months ago, we had the presidents of the cemetery unions at the Notre Dame Cemetery, which was one of the longer strikes in Quebec until recently, when the blue collar workers, the maintenance workers, actually accepted a deal and went back in. However, the office workers are still out, and they're about to hit the year mark on their strike. So, I mean, I could go into lots of detail about this, but the long and the short of it is that to a certain degree, I think the maintenance workers thought they were probably not going to get much better of a deal and broke ranks essentially with the office workers. So, I mean, it's not a tremendously huge workplace. Maybe there's 80 maintenance workers and 30 office workers at the moment. And but so this obviously weakens the position of the office workers at the cemetery, who are the first ones out and then also subsequently are still out on their own. And then I think the contract that the maintenance workers signed is actually another pretty long contract. It's not like the one before, which was, I think, for 11 years or something. This one might be 7 years, if I'm not mistaken. But the details haven't been released about what's in that deal. But from what I heard, the employer was coming back to the table time and time and time again with very similar offers. And the most recent deal that was rejected by the office workers was also regarding the terms of coming back to work, which so anyways, they feel fairly strong and united, and they're saying, like, we're not going to take a crap deal after this long out. But since that they don't have the strength of the maintenance workers on the picket line and in general, I'm not saying that there's bad blood between the units. Obviously, it's maybe a little less rosy than it was when they were sharing the picket line. But I was told that there was no animosity, that people understood the need to make a deal. But obviously, they would need support. And as far as I know, the picket lines are still there every day of the week. So if you're in Montreal and you want to check it out, they're there in the morning, weekday mornings at the Notre Dame Cemetery. I don't know if they've maybe switched it to just one of the entrances now. But go give those guys some donuts. They deserve it.
No, and I think this idea now that, they're going to be further, you know, isolated, or that they're going to be really in the backstage, means the support is even more needed at this moment. But there's also a recently... I mean, we'll talk about this in some of these other labor struggles, but also there's a moment where, you know, beginning to see not just sort of a rise in strikes, but it was very interesting. It was in CBC discussing actually how labor conflict now is sort of transforming, in the sense that unions are rejecting deals. Even being proposed by negotiators or arbitrators that that workers are willing to continue conflict now for their demands, which is an interesting facet and stage in terms of the labor movement, where it's not just strike, hope for the best, and accept some kind of settlement, but that workers are willing to hold out as long as they can. So I think the solidarity is critical at this moment.
Absolutely. Well, speaking of holding out, and this is not in the sort of the sense that we want, but it's been officially 11 months that the port workers in Quebec City have been out, locked out, that is. We spoke with the president of their local also a while back. So they produced a statement, I think, 2 days ago to mark the 11 months of the lockout. but that place is under federal jurisdiction, so it's not subject to the Quebec anti-scab legislation. And so they've been scabbed the whole time. And this is a small port comparatively. And we'll talk about the ports in BC shortly, but this is about 80 dockers who've been locked out. But they are denouncing a long list of work accidents as a result of people who don't know how to do the job and who haven't been doing the job for a long time, who don't understand the codes and the certain ways that people work. And they've been saying since the beginning it's just a matter of time for there to be some serious accident. And the amount of small accidents definitely sort of makes one think, well, they probably onto something. They know this place. They do handle a lot of dangerous materials. It's like it's a port that doesn't really handle like finished goods. It's mostly raw materials, but so that means a lot of chemicals and things like this that are volatile and so on. And you don't want to make accidents with that. Not to mention, just in terms of workplace injuries and deaths, these are definitely possible, whether it's finished products or raw materials, just in terms of the size and weight of the things that are being moved around or whatever. So 11 months in Quebec City, they need anti-scab legislation at a federal level to protect these kinds of situations from happening.
I mean, also, it's not just these situations. It's like... you know, other industries too, where, you know, that they're, you know, whether it be from airports, you know, the feds, you know, transportation, truckers. So yeah, it's something that, it's not, you know, the people under the federal labor standards or federal labor law are not a small, portion of the Canadian working class.
No. But maybe to stay on ports, I mean, probably one of the biggest stories of the summer in terms of labor was the ILWU strike in BC. Do you want to speak on this at all, Moose, before I yammer on?
I mean, you were there, so if you want to go ahead and I'll jump in. So
sure. I was visiting BC this summer with my family, and I stopped by the picket line on one of the 13 days that they were on strike. So 7,400 port workers in BC, the right wing and the business class screaming bloody murder, because this is billions of dollars that they stalled when they went on strike. And to be honest, I mean, it was like a very striking, if I may say so, thing to see, because whereas the port workers in Quebec City, there's 80 of them, I was at a picket line that had like 200 at like 10 o'clock at night. So you can see the sort of difference in the rapport de force between the employers and the workers there. The ILWU also is not known for being like shy of conflict, a little bit less conflict averse than QP, which is the union in Quebec. And when I spoke to the dockers there about the lockout in the Port of Quebec, they were like, oh, they got to get out of QP. They got to get out with that. And I said, I'm not getting involved in that, but you know, I could see your argument. I could see your position. Anyways, they went on strike 13 days, voted in an agreement at three quarters of the votes, basically. This was big news. I mean, in terms of labor conflict, this was all over the news every day. I thought that one of the most remarkable things about it was the participation of the incident response group, which was not super publicized, or it wasn't really treated with, it was just mentioned. It wasn't analyzed in the news. It wasn't really explained. But this is like a federally mandated emergency committee that's convened for extremely, this is the first time I think it's been involved in any kind of labor conflict. And I think that there would be basically a combination of a mediator and pressure mounter, if there is a difference. But this is sort of putting the full weight of sort of, I would almost say, the Canadian deep state behind solving this conflict. And you can see why that is, because it's a very strategic conflict in many ways, not just in terms of the money that's coming through, but they want to have a lid on this. It's like international trade. It's like domestic production. It's all of it. But I think it's worth those of us who pay attention to labor to make note of that and maybe spend a little bit more time thinking on it and trying to figure out what exactly went into that element of this conflict. Because, I mean, a lot of it's been covered in terms of, you know, some of the bigger details of the contract have been publicized. I think as of just a few days ago, they released some of the information about the wage settlements and the, you know, benefit packages and so on. But this thing just sort of flew under the radar in a certain way.
Well, yeah, I mean, just to get the scope, I mean, it's not like, you know, it's almost like an internal version. It's not Davos, but it's like, yeah, it's very like a high level informal mechanism to, you know, of, you know, Trudeau, Freeland, and, you know, and others to quickly, you know, to direct state policy or institutions, right? You know, whether it be the war in Ukraine, I mean, it even came out, you know, around the murder of Jamal Khashoggi, the Saudi journalist, that there was even this existence of this incident report group, incident response group that's mandated by Trudeau. So it's extremely high level, right? It's you know, it goes beyond just like the Minister of Transport or how they deal with the Canadian Union of Postal Workers, you know, in terms of arbitration or PSAC. It's like a very, it's almost like a you know, nearing like a militarized response. There was no, you know, military, but like this kind of, this is, you know, a national crisis, mm-hmm. kind of way.
Totally. Yeah. So, I mean, worth noting, and I guess like that, I think sort of, it just says what you need to know about what power workers have when they have a militant union that's willing to fight for its members, but also sort of, I mean, this is a union that's definitely pro-social, pro-socialist in a certain way. And so there's many reasons that they would be particularly worried about this union in particular being in charge of a strike like this.
No, and I mean, and there isn't, you know, where we see dock workers become more politicized. I mean, it's not just around economic issues that they begin to start playing a role. You know, even in the war in Ukraine, the dock workers in Italy beginning to block arms shipments for NATO. So if you know, if it became politicized and dock workers started going on strike around, you know, arms, you know, going to Ukraine, or, you know, it becomes a really critical issue. So to put out any labor conflict or the politicization of it and beyond the trade stuff is also, I mean, critical. I mean, for the Canadian state and the ruling class.
Absolutely. Maybe just a final tidbit to touch on is the Front Commun. So over the summer, it's been fairly quiet. There's a big demonstration across Quebec happening on September 23rd, but things don't seem to be moving at all, you know? So Legault's government continues with its offer of 9% over 5 years, which is a huge pay cut for workers in the public sector. So like the Front Commun itself of APTS, FTQ, CSN, and CSQ, they have that big demonstration, but even the nurses union is moving towards the strike. So we could have a pretty hot fall in terms of this particular conflict. Not to mention that when the National Assembly comes back in the fall, I don't know what's the schedule, but they will eventually be looking at Law 15, the proposed Law 15 reforming healthcare, which will be in and of itself like a sort of existential battle for the labor movement inside of healthcare institutions. And I mean, generally for the public at large in terms of defending public healthcare and strengthening public healthcare. So it's, I mean, when I look at the fall, I'm like, holy cow, it might be really crazy.
No, and I think also part of that is, you know, is also beginning to expand what Couillard did about representation in terms of unions within the public sector. So they're, you know, to further divide the unions in terms of the amount of members some of these unions could lose in terms of one, the representation of unions, you know, similar to Couillard, so only one union could represent a sector. And so this is going to happen with préposés now as well. So it's going to be a massive battle, and I think that again, you know, hopefully the focus becomes on Bill 15 and not internal divisions of who's going to represent these workers.
Yeah, it will take a big struggle because they can obviously pass any law that they like right now. So it'll be up to the movements to decide what they're willing to do to stop that. Yeah, lots of big stuff on the horizon.
Quebec is going to be, it's going to be a hot fall. There's also, I mean, it's not totally labor related, but on the, you know, on the 25th, there's actually, I mean, it's class related. I mean, there's going to be a demonstration. I guess it's a national day of action around the changes to the housing Bill 31. So okay. I think hopefully all of these different struggles are going to come together in the fall.
Yeah, make them political. That's the key. Absolutely. Well, maybe we should go to our interview. In the interest of time, like I mentioned earlier, we have Valérie Martin from Unifor, a forest firefighter with the SUPFEU, the forest fighter organization in Quebec. So look forward to hearing that. And thanks again for tuning in to CKUT, to Labor Radio here on 90.3 FM in Montreal. S'il faut que je me retire, je
Souvent disant, je vous aime, souvent ils nous aiment pas.
Et re-bienvenue à Labour Radio. On est en présence de Valérie Martin, elle est pompière forestière et présidente de la section locale de Maniwaki Tremblant à la SOPFEU. La SOPFEU qui est responsable des feux de forêt au Québec. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Mais ça me fait plaisir, Monsieur Doucet, enchanté.
Ben, le plaisir est à nous. Donc, est-ce qu'on peut peut-être commencer par décrire la SOPFEU? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde se disent, OK, il y a du monde qui s'occupe des feux de forêt ici. Est-ce que c'est les pompiers locaux dans les régions? Est-ce que c'est différent? Peux-tu commencer juste par introduire le sujet un petit peu?
Oui, bien dans le fond, la SOPFEU, c'est vraiment la Société de protection des forêts contre le feu. Donc, c'est vraiment à part des services municipaux. Donc, nous, dans le fond, notre travail, c'est vraiment d'aller combattre les feux de forêt. On n'est pas mandaté pour des feux de bâtiments ou ces choses comme dans ce style-là. Donc, on a beaucoup de corps de métier comme moi. Ben justement, je suis pompière forestière. J'ai beaucoup de collègues aussi qui sont pompières et pompiers forestiers. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de métiers. Si on y va du côté syndical, on a des préposés aux communications. On a du personnel à l'entrepôt, mécanicien. Dans le fond, c'est vraiment une très, très grande équipe qui travaille tout le monde ensemble pour finalement travailler de... C'est ça, en coopération pour justement venir à combattre les feux de forêt. Donc, nous, c'est ça. C'est vraiment à part des services municipaux. C'est sûr qu'on a des pompiers municipaux là-dedans qui travaillent pour les feux de forêt avec nous pendant l'été. Mais en général, on vient de plusieurs métiers différents, là, que ce soit des domaines de la foresterie ou autres. Mais c'est ça. Donc, c'est une très, très belle et grande équipe de la SOPFEU.
Très belle, très grande. Peut-être qu'elle pourrait être plus grande. On va parler de ça. Notamment, là, vous êtes en négociation avec l'organisme. Puis juste pour clarifier aussi, la SOPFEU, c'est un organisme qui est non gouvernemental, mais qui est surtout financé par le gouvernement provincial. Donc, c'est ça. Parlons un peu de la négociation, comment ça se passe dans le contexte très particulier de 2023.
Bien, c'est sûr qu'on ne se le cachera pas qu'avec l'action qu'on a eue cette année, ça l'a peut-être retardé un petit peu justement le travail qu'on voulait commencer tout le monde ensemble. Donc, c'est ça. Pour le moment, là, c'est vraiment d'y aller avec une révision des conditions de travail puis de rémunération aussi, on s'entend, parce qu'en ce moment, le gros pépin qu'on a puis qu'on essaye de régler, en fait, c'est la rétention de notre personnel parce qu'on perd beaucoup d'expertise au fil des ans, puis on essaye aussi d'attirer des employés qui sont qualifiés d'une certaine manière aussi parce qu'on a beaucoup de corps de métier à combler. Comme je disais tout à l'heure, là, que ce soit pompier ou autre, on a quand même beaucoup de domaines qui demandent de l'expertise, puis cette expertise-là, bien, on essaye, une fois qu'on l'a attirée, on désire la garder, là, puis ça, c'est un défi de taille là, en ce moment, fait que c'est surtout ça qui est axé nos négociations actuellement.
OK. Fait que parlons peut-être de les conditions de travail. Comme c'est là, moi, là, dans ma recherche que j'ai faite, ce que je constatais, c'était que, premièrement, que le financement de la SOPFEU a à peu près pas bougé depuis à peu près 10 ans. Puis ça, c'est en tenant même pas compte de l'inflation. Donc, si on tient compte de l'inflation, le budget de la SOPFEU est à peu près à 80% de ce qui était il y a 10 ans. Donc, ça l'a beaucoup diminué, alors que les feux de forêt, eux, ont augmenté de manière astronomique. Donc, j'imagine que ça, c'est une des grandes batailles au niveau des conditions de travail. T'sais, je veux dire, normalement, dans les métiers où est-ce que il y a beaucoup de détresse par rapport, on peut pas faire le travail qu'il y a à faire. On pense aux infirmières, aux travailleurs sociaux, toutes sortes de monde qui ont de la passion pour leur métier, mais qui constatent qu'avec les moyens qu'ils ont, ils sont juste pas capables de faire face aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Est-ce que tu peux parler de ça? Comment est-ce que les gens vivent cette situation-là?
Bien, c'est sûr que, comme tu disais, dans le fond, on a quand même un rôle qui est assez essentiel. On est des travailleurs essentiels. On l'a vu aussi en période de COVID. Donc, notre rôle est assez essentiel au niveau de la protection des forêts, des communautés. Sinon, ben, comme là, en ce moment, on travaille majoritairement en zone nordique, aussi protection de barrages hydroélectriques, etc. Donc, là, on a quand même un grand rôle à jouer à travers la province. Puis c'est sûr qu'on ne se le cachera pas, là, c'est un travail qui est saisonnier. Donc, la majorité des... en fait, tous les syndiqués de la province, c'est un travail saisonnier. Donc, des fois, c'est un contexte qui est quand même assez difficile. On ne se le cachera pas qu'avec l'inflation, justement, comme tu disais, ça ne l'a pas suivi. On a la consolidation travail-famille aussi. On s'entend qu'on est souvent appelé à travailler à l'extérieur puis s'éloigner pour des longues périodes de temps. Donc, c'est ça. Donc, nous, on jongle un petit peu à travers ces conditions de travail-là. Puis, tu sais, on le sait, là, c'est un travail qui vient avec beaucoup d'heures de travail. Nous, on est conscients de ça, puis ça fait partie de notre métier. On en est conscients, mais n'empêche qu'une il y a quand même une rémunération qui devrait aller avec ça, puis qui devrait quand même suivre l'inflation des dernières années. Puis si on compare justement nos salaires avec d'autres corps de métier qui sont essentiels, bien c'est sûr qu'on ne suit pas là, actuellement. Donc, c'est vraiment un désir d'arriver avec une belle entente aussi, là. Parce qu'il y a des gens, veut pas, pendant l'été, on travaille pour la SOPFEU, mais l'hiver, on a des étudiants, on a des gens qui se trouvent d'autres métiers aussi, qui travaillent pendant l'hiver, parce que sinon, on n'est pas capable de faire le tour avec le chômage, advenant des étés très tranquilles. Mais ça reste quand même un défi aussi, il faut prendre ça en considération. Il y a des gens qui ne sont pas capables de vivre seulement de leur métier pour un an, donc ils doivent se trouver un autre emploi pendant l'hiver pour arriver à la fin du mois. Donc, c'est quand même une petite embûche là, dans tout ça, là, parce qu'on s'entend qu'on aimerait ça, on aime beaucoup nos métiers, puis on aimerait ça être capable d'en vivre, là, que ce soit une très grosse saison comme on a expérimenté cette année, ou une saison beaucoup plus tranquille si on compare, exemple, l'année passée. Donc, je pense que ça serait essentiel au moins que nos gens soient capables de vivre leur passion, là.
Oui, ben comme tu dis, je veux dire, les gens aiment leur métier, mais aussi, je pense que les Québécois aiment leur qualité d'air puis leur forêt.
Oui.
Tu sais, fait que, je veux dire, c'est comme une espèce de combat qui rejoint un peu toute la population. Je pense que souvent, c'est le cas avec les services essentiels. C'est que vous faites un travail qui bénéficie à toute la population. Donc, en parlant justement de rapport de force, là, fait que justement, tu disais, on a eu de la misère à négocier cette année parce qu'il y avait tellement de feu, fait qu'on n'était pas capable. Bon, fait que là, en période où est-ce que c'est plus calme ou est-ce que c'est totalement calme et c'est l'hiver, il n'y a pas de feu, ça devient un petit peu dur d'utiliser des moyens de pression, puis ça sera peut-être un petit peu mal vu comme ce n'est toujours par une certaine partie de la population, si vous exercez des moyens de pression durant une période où est-ce qu'il y a des feux, puis tu veux pas éteindre un feu parce que tu es en négociation.
C'est sûr que c'est une avenue qu'on peut, c'est dans le sens on n'ira pas vers ça, dans le fond. C'est sûr que les feux de forêt, ça reste une priorité. Ça ne peut pas aller à l'encontre, advenant des moyens de pression, quelque chose du genre. C'est sûr que ça ne peut pas empêcher les opérations non plus, là. On s'entend que c'est quand même un danger, soit pour la population, des communautés, puis on ne se le cachera pas, on a un devoir d'intervenir dans ces moments-là. Donc, si jamais on doit aller vers des moyens de pression parce qu'on n'arrive pas à trouver une entente, mais c'est sûr que ça, on ne pourra pas mettre notre métier de côté pour autant. Il va falloir qu'on travaille autrement. Mais justement, comme tu disais, pendant l'hiver, bien, c'est sûr qu'on est, tous de retour dans nos familles, on est moins présent, si on peut dire, mais vu le contexte aussi, avec la saison qu'on a eue, ben, c'est sûr que les négociations devraient se reprendre là, d'ici la fin de l'été et l'automne, donc on espère justement commencer à travailler de concert avec l'employeur le plus rapidement possible là, pour arriver avec une entente prochainement, mais ça, c'est ça. On va voir ce que l'automne nous réserve.
D'accord. Ben, faisons un petit retour d'abord pour cet été. Peux-tu nous mettre un petit peu dans la situation d'un pompier face à cette espèce d'explosion de feu qu'on avait? Parce que moi, en regardant la map qui était présenté par le ministère, puis tout ça, ça donnait l'impression, avec les chiffres de la SOPFEU, selon comme, combien de personnes qui travaillent chez vous, ça donnait l'impression d'avoir peut-être moins que 2 pompiers par feu de forêt, ce qui semble vraiment pas nécessaire, c'est pas suffisant, c'est ça. Fait que, comment est-ce que ça se passe sur le terrain quand qu'il y a, est-ce que c'est juste une priorisation qui se fait? Est-ce que on entend souvent parler qu'il y a des pompiers qui viennent de l'étranger? Comment vous vivez ça au jour le jour?
Bien, c'est sûr que là, tout est arrivé en même temps. Moi, à ce moment-là, j'étais en Alberta justement parce que si on se rappelle bien, là, en début de saison, au printemps, c'était l'Alberta qui connaissait énormément de feux. Donc, on a envoyé plusieurs sections. Dans le fond, une section, c'est une vingtaine de pompiers qui va être envoyés justement dans une autre province ou un autre pays, tout simplement aussi. Puis là-bas, ils vont aller prêter main forte à la province ou au pays hôte. Et pendant que j'étais là-bas, justement, c'est dans le coin du 1er juin, on a eu une ligne de foudre plutôt sèche qui a passé, puis on avait des indices justement qui étaient réceptifs, donc on a eu une explosion des feux, là, ça c'est certain. Puis c'est sûr que la charge de travail a explosé parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de situation-là, on s'entend que c'était hors du commun, puis on a une année aussi que ça brûle d'est en ouest au Canada, donc la ressource, la main-d'œuvre était vraiment plus difficile à trouver. Parce qu'on s'entend que normalement, on aurait fait appel à nos confrères des autres provinces, mais là, eux-mêmes avaient un besoin. Donc, ils ne pouvaient pas combler les nôtres. C'est pour ça qu'on est allé chercher justement des Français, des Portugais. On a eu aussi des gens de la Corée du Sud. Donc, c'est ça. Ça a été une année vraiment exceptionnelle. Puis, c'est sûr que là, avec une explosion comme ça des feux, mais il faut y aller au niveau des priorités. Là, on a eu un gros feu qui a éclaté pas loin de Sept-Îles. C'est sûr que Sept-Îles, c'est une ville, donc il faut intervenir rapidement. On a eu Clova aussi qui a été menacée pendant un certain temps, Lebel sur Quévillon, si on se rappelle aussi. Donc, c'est sûr qu'on va aller prioriser les endroits comme ça, là, qu'il y a une menace pour la population. Il faut intervenir très rapidement dans ces situations-là. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de prioriser certains feux plutôt que d'autres, de manière à les contrôler beaucoup plus rapidement, les maîtriser, puis s'assurer de justement que ce soit moins un danger dans le futur. Mais sinon, comment ça fonctionne aussi? Lorsqu'on manque de personnel à la SOPFEU, on va faire appel à de la main-d'œuvre auxiliaire. Dans le fond, on a des fournisseurs de main-d'œuvre et on fait appel à eux lorsqu'on a un besoin. Exemple, on a du déploiement à faire dans certaines régions où justement on va envoyer des gens sur certains feux. On va demander du personnel, puis ces fournisseurs-là vont nous les prêter, dans le fond, pour un certain temps, que ce soit des travailleurs forestiers, des pompiers municipaux aussi, un petit peu de tout. Donc, ces gens-là sont formés par la SOPFEU, une formation de combattants. Puis après ça, peuvent venir travailler avec nous. On en a que ça fait, c'était leur première année cette année. On en a d'autres aussi que ça fait des années puis qu'ils reviennent toujours. Mais c'est ça. Donc, on jongle avec beaucoup de combattants auxiliaires. Là. Surtout cette année, ça a été une année record. Là. On a des gens qui ont travaillé à la formation pendant plusieurs semaines d'affilée là, pour s'assurer que le personnel était formé adéquatement. Mais c'est sûr que une année comme ça, on n'était pas assez nombreux, mais c'est ça. Il faut garder en tête aussi que c'était quand même exceptionnel là, cette année-là. Donc, ça a été un beau travail de jonglerie, mais je pense que, somme toute, là, on est arrivé à une belle conclusion, là, surtout comme ça, début août, ben, on réalise que majoritairement, les feux ont été éteints en zone intensive, puis que là, on est concentré dans zone nordique. Là, fait qu'on peut dire qu'on a fait du beau travail quand même. Là, on est fiers de ce qu'on fait. Puis, c'est ça. Donc, okay. On a travaillé fort.
Oui, absolument. Fait que peut-être, avant de parler au niveau syndical encore, comment est-ce que tu vois le futur? Parce que je pense que plusieurs personnes se sont dit, OK, là, c'est vraiment juste le début de, tu sais, avec les changements climatiques, il va y avoir de plus en plus d'été comme ça. Je pense que c'est un peu de la pop science, c'est pas nécessairement des biologistes qui disent ça. Je sais pas, moi, je suis pas plus biologiste que le prochain, mais est-ce que, selon vous, c'est un été comme celui-ci, c'est un peu vers ça qu'on s'enligne pour le futur, puis dans ce cas-là, quelles seraient les demandes au niveau syndical comme au niveau plus politique par rapport à la protection des forêts?
Ben, c'est sûr que moi non plus, je ne vois pas le futur. Bien que j'ai étudié en foresterie, j'ai pas toutes les réponses. Mais c'est sûr que justement, la météo, c'est une science qui est quand même un peu, en tout cas, qui est pour moi abstraite là, d'une certaine manière. Si on regarde les prévisions de début de saison, on s'était fait dire que ça allait être une année vraiment tranquille, encore plus tranquille que celle de l'année passée. Puis justement, quand les conditions s'alignent, on se ramasse avec justement une année comme celle-ci, là, qui était une année record, là. Donc, c'est sûr qu'advenant des situations comme ça qui se répètent, ben là, comme je disais au début, là, nous, on veut retenir notre expertise. On se retrouve avec des gens qui sont peu formés, des gens que ça fait moins de 3 ans qui sont sur des feux dans des situations comme ça. Ben, c'est sûr que ça demande beaucoup, beaucoup de connaissances quand même pour gérer ces feux-là, puis gérer des équipes sur ces feux-là. C'est des situations extrêmes. Mais si on est capable justement de garder notre expertise, de garder nos employés le plus longtemps possible, bien, ça fait en sorte qu'on développe une belle chimie, on connaît notre métier, puis on est capable de le faire plus rondement aussi. On ne peut pas se permettre de perdre des gens de 15 ans d'expérience, puis d'autant plus aussi qu'on veut attirer du personnel, là, si on réussit à les attirer, puis qu'ils essayent une saison, trouve ça intéressant, mais à cause, tu sais, justement des conditions de travail ou du salaire. Ben, se retrouve à quitter après 5 ans, ben, on n'est pas plus gagnant en forme du personnel qui reste seulement à court terme. C'est pas dans nos intentions, là. On espère, dans le fond, que les gens qui aiment ce métier-là puissent le faire le plus longtemps possible parce que si on n'est pas capable d'avoir un salaire décent par rapport aux risques aussi qu'on vit là, dans nos métiers de tous les jours, là, ben, c'est ça, là, c'est un petit peu inquiétant là, si on se fie à la saison qui vient de passer là, ou qui est encore en train de se dérouler, là. Mais c'est ça, advenant des saisons extrêmes comme ça, avec des changements climatiques beaucoup plus intenses encore dans le futur, bien, il va falloir qu'on redouble de vigilance par rapport à notre personnel, là. Il faut qu'ils soient formés, puis il faut qu'ils restent. Nous, c'est vraiment ça nos revendications, là. C'est une amélioration des conditions de travail, une bonne rémunération pour s'assurer de garder notre expertise où elle devrait être, là.
Absolument. Puis parlant d'expérience aussi, puis d'expertise, j'imagine que dans un domaine comme celui-ci qui est saisonnier, l'expérience puis l'expertise syndicale, elle est aussi assez difficile à mener parce que c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est dur d'être mobilisé syndicalement dans des conditions extrêmes comme des feux de forêt. je veux dire, ça demande une certaine finesse, j'imagine. De vouloir parler de conditions de travail alors que la condition de travail, c'est un incendie. Après toute la période de démobilisation durant le chômage, comment est-ce que vous faites au niveau syndical pour faire vivre un peu votre unité locale ou pour t'sais, dans les instances, comment est-ce que ça se fait?
Ben, nous, personnellement, on y va avec, on a une page Facebook, dans le fond, qu'on a tous les saisonniers de Maniwaki-Tremblant, puis on diffuse l'information là-dessus. On a aussi les courriels des employés, donc on peut envoyer vraiment toute l'information. On reste soudés, puis on fait des assemblées aussi advenant des besoins. Puis je pense que c'est vraiment important, ça aussi, de garder nos membres quand même informés de ce qui se passe. Donc nous, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne, puis on l'a vu aussi, vu qu'on avait justement des petites situations ou la COVID ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui vivaient des grandes inquiétudes, mais c'est important de rester soudé dans ces moments-là. Puis d'autant plus que là, justement, en contexte de négociation, c'est important aussi d'expliquer qu'est-ce qui s'en vient, puis de diffuser cette information-là. Donc, nous, on y va comme ça. Puis on a aussi, dans le fond, on communique entre présidents. Dans le fond, on est plusieurs présidents à travers la province. Donc, on reste en communication, que ce soit avec nos exécutifs ou avec les autres présidents pour savoir un peu comment ça se passe chez eux, comment ça va, ou côté unité, côté relation avec l'employeur. Est-ce que vous avez eu des problématiques aussi récemment par rapport à certains articles de convention, par rapport à certaines situations? Donc, nous, c'est ça, on reste quand même en contact. Puis c'est ça qui est beau là-dedans, c'est que malgré une saison aussi mouvementée, ben quand il arrive quelque chose ou qu'on a besoin d'informations, on est tous en communication. C'est ça qui est beau avec la technologie, là. On est capable de se donner de l'information très rapidement, de trouver des solutions en équipe, puis advenant aussi des pépins, ben, on est capable de diffuser l'information à nos membres ou justement se mobiliser, là, comme là, Uniforme nous a fait des beaux foulards, des bofs qu'on peut porter sur nos feux. Les préposés peuvent le porter aussi également, là. À l'entrepôt, on en a vu quelques-uns le porter. Donc, c'est le fun parce qu'on reste quand même solidaire, même si on ne se voit pas beaucoup, là, mettons qu'avec des situations comme ça, on se ramasse un petit peu n'importe où en province, là, puis finalement, on ne voit pas nos collègues de notre section locale pendant un certain temps, mais le fait qu'on est quand même capable de rester soudés dans la même direction, mais c'est ça qui fait la différence, là.
Et peut-être juste une dernière question par rapport à la négociation qui s'annonce. Parce que c'est sûr que souvent avec des organismes tels la SOPFEU ou je sais pas trop, c'est un peu mal vu quand que l'employeur est assez féroce envers les travailleurs durant une période de négociation. Mais ça n'empêche pas que ça arrive. Là, on voit avec le conflit au cimetière Notre-Dame à Montréal, c'est un OBNL, mais... Je veux dire, eux autres, ils sont farouchement anti-syndicales et tout ça. C'est sûr que si d'un jour à l'autre, la population entend dire que la SOPFEU veut couper dans les conditions de travail alors que vous venez juste de sortir comme de cette saison tellement malade, ça sera peut-être assez mal vu, mais c'est pas impossible non plus. Fait que, peux-tu juste nous donner un petit profil de comment est-ce que s'annonce la négociation? Là, vous avez fait votre communiqué de presse fin juillet, annonçant votre intention là, d'augmenter, comme tu disais, les salaires et les conditions de travail. Comment est-ce que ça a été reçu? Puis comment est-ce que vous voyez la négociation s'annoncer?
Ben, c'est sûr que dans le meilleur des mondes, on espère qu'il se déroule bien. On espère qu'il se déroule aussi dans un contexte de belles relations de travail aussi avec l'employeur, parce que nous, c'est pas dans nos intentions justement de poser des problèmes ou quoi que ce soit. T'sais, une négociation à la base, c'est vraiment pour, c'est un contrat de travail. C'est de discuter avec l'employeur qu'est-ce qui fonctionne moins, le pourquoi du comment, puis on espère justement que l'employeur va avoir une forme d'écoute intéressante qui va nous permettre justement d'améliorer tout ce qu'on a discuté tout à l'heure, là, que ce soit les conditions de salaire, parce que t'sais, ultimement, nous, c'est vers ça qu'on veut s'enligner. Là. On veut pas justement avoir des grandes disputes puis devoir justement je veux pas le dire de même, mais ça, on veut pas que l'employeur passe pour un méchant non plus. Là. C'est pas ça nos intentions. Dans le meilleur des mondes, on va avoir des bonnes discussions qui vont mener vers une convention collective qui va être intéressante pour tout le monde. Là. Nous, c'est vraiment ça nos intentions, mais justement, je peux pas parler à la place de l'employeur, puis je connais pas encore toutes ces cartes. Donc, provincialement, on va y aller ensemble, justement, tous les exécutifs ensemble, on va être assis à la même table au niveau des négociations monétaires. Donc ça va être intéressant là, justement de pouvoir s'asseoir puis de regarder comment qu'on voit ça provincialement puis d'avoir un bon levier aussi par rapport à ça, parce que c'est tout récent là, que présentement la SOPFEU au complet, là, provincialement, on est tous sous le blason d'Unifor. Donc le fait d'avoir un seul syndicat aussi va nous avoir un certain rapport de force, puis si on est bien content là, de pouvoir travailler provincialement tout le monde ensemble puis d'avoir leur juste en même temps. Donc, pour nous, c'est vraiment excitant, puis on a super hâte de pouvoir justement s'asseoir avec l'employeur, puis de négocier, puis de voir un peu où ça nous mène, parce que nous, au fond, on veut juste continuer de faire nos métiers, puis d'être satisfait aussi avec nos conditions. Fait qu'on espère vraiment que c'est réciproque du côté de l'employeur, là. On espère avoir droit à une bonne écoute, puis aussi des belles surprises, là.
Absolument. Ben, je te remercie beaucoup, là, Valérie Martin, pompière forestière et présidente de la section locale de Maniwaki-Tremblant au sein d'Unifor à la SOPFEU, ton titre. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps d'en jaser avec nous. On apprécie évidemment beaucoup votre travail, puis on a beaucoup de respect pour toute la gang à la SOPFEU. Donc, merci beaucoup.
Mais ça a été un plaisir, puis je tiens à remercier aussi tous mes collègues là, de près, de loin, là, que ce soit des travails un peu plus terrain ou moins terrain, comme nos préposés au com, à l'entrepôt, peu importe. Là, tous les métiers sont essentiels à la SOPFEU, pas juste les pompiers. Là, sans eux, on ne serait pas capable de faire nos travails. Mais c'est sûr que c'est ça. C'est une saison de défis, puis on est bien content là, que ça soit reconnu aussi, qu'on se fasse entendre un petit peu d'une certaine manière. Donc, un petit bonjour à toute la gang de la SOPFEU également. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup.
Les suiveux se promènent en botch, soit à New York, soit à la Mecque. Toutes les lièvres, c'est des quick lunch, la peau des os, le poêle avec. Toutes les rivières vont à la mer, toute la bière y va aussi. Le reste du monde s'en va nowhere, mais pour ma part, je reste ici.
envie de changer de sujet, sinon c'est méga non pas tout. On vend pas le paradis terrestre, c'est au bon Dieu ce qui en reste. As-tu besoin d'un 5 étoiles quand t'en as 5 millions dans le ciel? Déménager mon lac sans déranger, car non, c'est pas possible, pas qu'on 15 morts. S'il y a plus de petits mulots dans la boîte à bois, s'il y a plus de colibri dans mon whisky, moi, m'en pas là. Et c'est ça la vie. J't'ai arrivé 7 ans 1800 en poursuivant le pavillon. Et tous les soirs depuis ce temps, c'est moi qui donne le réveillon. À l'ombre des oiseaux en fleurs, sous le feuillage des épinettes, je suis accablé de labeur, je vous donne un exemple de fête. Tempête de neige sur mon balcon, ça m'occupe une partie de la nuit. C'est long, classé toutes les flacons, surtout marqué numéro de série. Pis ça c'est rien, demain 5 heures, c'est les boostages de toi et sa fête. Là, faut que je m'en aille, je suis porteur aux funérailles du maringouin. Déménager mon lac sans déranger, canon, c'est pas possible, pas qu'on tient sa mort. S'il y a plus de petits mulots dans boîte à bois, s'il y a plus de colibri dans mon whisky, prie-moi pas là. Et c'est ça la vie. C'est confident, j'aime bien la bière, faut des bidous, ça je l'ai compris. Un compromis fera mon affaire, rien que pour vous m'offrir un prix. Comment ça vaut une veste de loup, du jus de tonnerre, la pente avant. Une douzaine d'œufs de carcajou, j'ai tout ça dans mon dépliant. Spécial mouche noire qui sodomise les beaux bluets avant l'été. C'est 20 vers chaque, les taxes comprises, l'armée en sus pour les compter. Là j'additionne, c'est ça mon ville, en ajustant peine de jouissance. C'est sans ignore la puissance, mais l'en-dessous d'un table payable d'avance. Déménager mon lac sans déranger, canon, c'est pas possible, pas qu'on tient sa mort. S'il y a plus de petits mulots dans la boîte à bois, s'il y a plus de colibri dans mon whisky, moi, m'en pas là. Eh oui, c'est ça la vie.
And welcome back to Labor Radio here on CQT 90.3 FM. We were just listening to our interview, and that is the end of our show here for the August edition of Labor Radio. And as we were talking about in the introduction, there's going to be no shortage of labor struggles to talk about in the fall, especially in the local context in Quebec with the Front Commune, with the cemetery workers strike. There's also a whole series of struggles that I think are going to really unfold, especially the Front Commune. And, you know, one of the things that we talked about and is maybe, you know, how do we as activists and labor journalists and, you know, kind of step back and have the bird's eye view, and what's the role of you know, trying to build a militant labor movement. I don't know, Stefana, you want to talk a bit more before we, you know, maybe excite our listeners to next month's episodes?
Well, we'll see what we can do, but we've been brainstorming this idea of a sort of discussion on like the left's role in labor right now. So if we get around to it, hopefully that'll be next month. But if not, I'm sure we'll have something great for you. But thanks again for listening. Find us on Facebook, find us on ckut.ca, and you can catch us next month on the third Thursday of the month between 5 and 6 p.m. Take care.
Thursday, August 24th at Turbo House, a benefit concert to support victims of intimate partner violence, featuring Rufus Cesspool, Debbie Christ, The Rejectors, and Teenage Witch. Tickets are only $15, and all proceeds will be donated to SOS Violence Conjugale. Show starts at 8 p.m.
Are you a tenant in Montreal? Do you have questions about your rights? Your local housing committee can help. To find the housing committee for your neighborhood or for more resources, go to www.rclalq.qc.ca.
Good evening. It's 6 o'clock. You're listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca, the show about theater on the radio. From drama to musicals to burlesque to comedy and everything in between, professional, student, and community productions in and around Montreal, the island also known as Jojage in the Ganyagaha language, and Munayang and Anishinaabemowin, where we spell theater with an R-E at the end. I'm your host, Sarah De A, live in studio on Thursday, August 17th, 2023. On tonight's show, Mariette Plein La Rue returns to the coolest street in the world, Wellington. Yes, the Promenade in Verdun will host a variety of puppet shows. Not this weekend, the weekend coming up. What to expect? We will speak with a communications person just in a couple moments from now. As well, playwright Vittorio Rossi is as busy as ever, getting ready to screen the film version of his play, Legacy, a family drama set in Montreal that touches on corruption, loyalty, and false allegations of ties to